Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Nous ouvrons aujourd'hui le deuxième volet de notre programme inédit « Penser la culture » qui va se dérouler tout le long du mois de mars. Aujourd'hui, je veux vous proposer une chronique en tandem avec une de mes amies qui m'a mis ce tout petit livre entre mes mains. Bonjour Jeanne.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là aujourd'hui.
Merci de m'offrir cet espace de parole encore une fois.
Je suis très heureux de te recevoir. Comment vas-tu ?
Je vais bien et je suis très heureuse de te retrouver pour parler de notre inspiration du jour.
Oui, plaisir partagé en tout cas de te retrouver à ce micro. On va donc parler de ce tout petit livre qui s'intitule « Du péril de l'ignorance », un discours de Victor Hugo que vous pouvez retrouver dans toutes nos belles librairies indépendantes aux éditions du Sonneur depuis novembre 2010. Amis lecteurs et lectrices, sortez de tout petits marque-pages, nous ouvrons aujourd'hui notre premier livre de Victor Hugo. Nous sommes le 10 novembre 1848. Victor Hugo monte à la tribune de l'Assemblée constituante pour délivrer son discours. Coquetterie de la part de l'éditeur, le discours est intitulé, d'après Victor Hugo, « Question des encouragements aux lettres et aux arts ». Lorsqu'il monte à la tribune, l'ordre du jour est à la discussion du budget rectifié de 1848. Traversé par une période économique complexe, le gouvernement en place décide de mesures d'économie pour trouver des moyens de garder son système en place et en parfaite santé. Vers quel ministère se tourner, alors, pour trouver de l'argent ? Où faudrait-il couper les subventions de l'État ? Comme à l'habitude, les politiques vont décider de mesures économiques dans un secteur en particulier, celui des arts, des lettres et des sciences, que l'on pourrait appeler aujourd'hui la culture. Dans son discours, Victor Hugo dénonce cette manie récurrente de couper le budget de ce que nous appelons aujourd'hui donc cette culture pour pouvoir maintenir à flot les autres pôles de dépenses. Or, en désignant les autres pôles de dépenses parfois superflus qui vivent au crochet de la culture, Victor Hugo dénonce, par le manque de moyens alloués par l'État, le recul de la connaissance et donc la progression de l'ignorance et de l'individualité. Rapidement, dans son discours, Victor Hugo dit, je cite, qu'il ne voudrait pas éveiller le rire dans cette assemblée lors de son discours. On peut déjà se demander si un tel sujet peut être pris au sérieux ou non. Mais surtout, et nous avons l'occasion de le voir au fil de la lecture de ce discours retranscrit, Victor Hugo suscite quand même le rire de son auditoire pour les alerter et les faire réagir. On connaît aussi Victor Hugo, homme politique, mais aussi homme de théâtre. Jeanne, est-ce que nous n'avons pas là une formidable preuve de rhétorique de théâtre avec une forme déguisée du fameux Castigat ridendo mores ?
Bien sûr. Alors justement, cette formule latine qui désigne donc le fait de corriger les mœurs par le rire peut tout à fait s'appliquer ici. À l'exception près, je dirais que, comme tu l'as très bien dit en introduction, il pose le fait qu'il ne souhaite pas faire rire. Donc déjà, il met en place un certain désir de solennel et de sérieux. Et justement, je pense que dans cette assemblée, qui est donc une marque de la puissance de l'état de droit et de notre République, il veut écarter toute forme de ludisme. C'est un néologisme qui a été posé par un des écrivains, Pascal Landelier, je crois, qui avait écrit un petit essai du nom du pouce et la souris, très intéressant, et qui pose cette question, enfin ce terme de ludisme, alors peut-être qu'il a déjà été inventé avant. Mais ce ludisme, c'est un peu ce qui caractérise notre société aujourd'hui. On ne conçoit rien sans raillerie, sans tourner en dérision, sans se moquer du politique, se moquer de toute forme de sérieux, se moquer de toute forme d'autorité. Et je crois que Victor Hugo, ici, là, ne cherche pas vraiment à susciter le rire. Alors, bien sûr, par son tact et par sa maîtrise de la langue et du parler, il arrive, par certaines de ses tournures, à susciter un rire, susciter du moins une émotion ou une réaction de ses pairs. Mais je ne crois pas que son souhait ici est de faire rire, mais plutôt d'être sérieux, de revêtir quelque chose de très rigoureux, quelque part. Parce que son message est... est crucial. Et là, il en va d'un sauvetage de quelque chose de vital.
Il dénonce justement des petites économies, comme il le dit, qui ont d'immenses conséquences sur les écoles, les muséums, les bibliothèques, les archives, les conservatoires et encore autres lieux d'institutions très importants pour la culture. Est-ce qu'on peut en déduire, ou peut-être affirmer, que la culture serait la dernière roue du carrosse de l'État ?
Dans ce petit, cette retranscription de son discours, c'est vraiment la chose qui apparaît comme étant exactement ça. C'est-à-dire qu'on on balaye la culture sous le tapis et elle fait partie de de ce que l'on voit, du cadet des soucis qui sont ici posés sur la table. Et quelque part, c'est assez surprenant, cet état-là, cette situation-là à cette époque, que l'on retrouve très bien aujourd'hui, et les revendications qui vont dans le sens d'essayer de réintroduire la part de culture au cœur des sujets de notre société, finalement, sont un héritage qui est très ancien, quelque part. Parce que, moi, c'est une chose qui m'a étonnée, mais du contexte de 1848, j'imaginais que la culture était encore vraiment le cœur battant de la société française de cette époque. Et de voir ça, quelque part, ça m'a beaucoup désarçonnée. Et en même temps, ça m'a d'une certaine façon rassurée, parce que je me suis dit que les soucis qu'on avait aujourd'hui n'étaient pas des soucis seulement du fait de notre modernité actuelle, contemporaine, mais que quelque part, c'était aussi un héritage du passé.
J'ai eu cette même réflexion justement sur cette fameuse période, parce qu'effectivement, nous sommes au milieu du 19e siècle,
oui.
Donc avec une profusion culturelle, littéraire,
musicale,
voilà, qu'on connaît d'après la Révolution française. Mais d'un autre côté, avait-il peut-être la conscience de vivre tout ça ou non ? Parce que nous, on le voit aujourd'hui avec un recul qui est certain, on a quand même deux siècles qui se sont écoulés depuis,
bien sûr.
Ou quasiment. Peut-être n'avait-il pas la conscience de se dire, mais en fait, nous vivons dans une période culturelle très forte. Est-ce qu'on peut encore l'armer justement en donnant des financements, ou peut-être avait-il déjà des idées pas forcément conservatrices, mais réductrices, de se dire bah oui, ils vivent, donc ils n'ont pas forcément les besoins supplémentaires de moyens financiers.
Bien sûr, et je pense que oui, bien sûr, quand on vit dans une époque où on a ce manque de recul, évidemment, et qui fait que on a un regard plus incisif, toujours peut-être parfois plus porteur de noirceur pour certains, et on ne se rend pas compte des richesses finalement qui peuvent nous entourer. Et c'est en ça que la question du temps et de la temporalité est essentielle, parce que c'est par ce temps que on arrive à se rendre compte de l'importance des choses qui sont là. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante à serrer la ceinture sur la question de la culture, même si on a l'impression que celle-ci est moins florissante qu'elle ne l'aurait pu être des siècles auparavant. Mais je te rejoins tout à fait dans cette remarque.
Victor Hugo démontre aussi que l'État arrive pourtant à tirer profit de la culture à des fins qu'on pourrait presque qualifier de pernicieuses. Un écrivain peut se tuer à la tâche pour produire une œuvre, je pense notamment à Honoré de Balzac, qui en est même mort, mais qui va, par son œuvre, faire la gloire de son pays. Alors l'État va récupérer les lauriers, ne mettra pas forcément à l'abri la famille du défunt écrivain. Un tel fonctionnement, ça pourrait quand même nous faire penser à des régimes totalitaires.
Bien sûr.
Alors que là, c'est quand même un régime démocratique.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que tu parlais de raisonnement pernicieux au départ. Mais la parallèle est tout à fait parlante et elle s'applique parfaitement ici. On a toujours une forme de mépris, je crois, des choses immatérielles. Et les lettres et la question de la langue, qui est pourtant si fondamentale, ça fait partie de notre essence même, l'essence même du sujet, elle est toujours récusée. C'est ce qu'on voit, par exemple, même aujourd'hui. On parlait lors de notre entretien de la dernière fois sur le livre donc d'Apprendre à désirer, sur le fait qu'on fait si peu usage de la parole, quelque part.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait beaucoup plus de bruit aujourd'hui que de véritable langage ?
Bien sûr, il y a beaucoup plus de... Finalement, comme la tournure de « much ado for nothing », par exemple, en anglais, beaucoup de bruit pour rien. Cette idée qu'on brasse beaucoup de l'air et qu'on passe à côté de l'essentiel. Et pourtant, cet essentiel, il ne pèse pas lourd par rapport à toute cette promesse technologique, cette promesse économique. Et pourtant, en réalité, c'est peut-être ce que nous avons de plus précieux autour de nous. Et malheureusement, c'est une forme de fatalité. Peut-être qu'on arrivera un jour, et je l'espère, à renverser. Mais malheureusement, elle est brimée face à une sorte de matérialité écrasante. Voilà, si je puis me permettre, donc à la page 29, je cite Victor Hugo dans son discours qui dit à un moment... Eh bien, la grandeur de notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel et de le détourner par conséquent du bien-être religieux et du bien-être intellectuel. Ici, c'est, voilà, ça vient parfaitement mettre en lumière ce que tu disais sur cette omission essentielle.
Et est-ce qu'avec ce bien-être matériel, on y reviendra évidemment, mais on ne pourrait pas aussi faire un rapport avec... le divertissement pascalien, le fait de s'évader par autre chose pour oublier sa mort, mais du coup s'oublier aussi soi-même.
Bien sûr, absolument. C'est un trait de liaison qui est parfait ici.
Victor Hugo nous dit aussi que donc, l'État ne respecte rien, on vient de le voir avec la puissance, l'aura des auteurs, mais l'État ne respecte pas même non plus l'histoire des institutions qui mettent en place et qui encadrent la culture, par donc cette donation de fonds pour pouvoir faire perpétuer les muséums ou les écoles des beaux-arts. Est-ce une façon aussi de récuser sa propre histoire culturelle ?
Oui, absolument. Et c'est assez intriguant parce que ce que tu as repéré, je l'ai vraiment souligné en rouge dans le texte.
Carrément.
Sur le fait qu'il dit à un moment, ce système attaque tout, ce système ne respecte rien, ni les institutions anciennes, ni les institutions modernes. Et c'est ce passage d'institutions anciennes que j'ai vraiment, voilà, qui a fait sens pour moi, parce que c'est encore une fois tourner le dos au passé, le considérer comme quelque part comme suranné. Et c'est une forme d'hubris aussi de penser que parce que nous sommes dans ce temps présent, qui nous échappe d'ailleurs complètement, c'est une forme d'hubris de penser que du fait de notre contemporanéité, nous avons plus de facultés, que nous avons plus de clairvoyance sur les choses que nos ancêtres, alors que pas du tout, et que nous avons tant à apprendre d'eux d'une certaine façon.
Je voudrais vous lire maintenant un extrait de ce fameux discours. Lorsque je vous disais, amis auditeurs et auditrices, que ce discours n'a pas perdu aujourd'hui de sa force et de sa superbe, cet extrait que je vais vous lire en est, s'il le faut, une des preuves irréfutables. Vous pouvez retrouver cet extrait à la page 26-27 de notre tout petit livre du jour. Et quel moment choisit-on ? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes ces institutions à la fois ? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les éteindre, les étendre et les élargir. Quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments, à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance encore plus que la misère. Si Victor Hugo était aujourd'hui député, là-haut, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, pourrait-il encore prononcer ce même discours, ce même passage, avec les mêmes mots ?
J'espérerais que oui, mais je pense que la réalité me donnerait tort, car je crois qu'aujourd'hui, il y a un mépris ou du moins une confusion sur le terme d'ignorance. Je crois qu'aujourd'hui, le terme d'ignorance viendrait faire brutalité, quelque part, dans les oreilles de ceux qui les écoutent. Et on prendrait ça comme une forme de mépris.
Donc il serait vu extrêmement péjorativement.
Oui, à tort d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le fait de ce manque de mots, ce manque de paroles. Toute parole aujourd'hui est incisive, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit même dans notre réalité du quotidien, on bouscule quelqu'un, tout est brutal et quand on peut être emporté par certains mots ou par certaines émotions, tout de suite c'est reçu de façon directe, on absorbe tout ça, on n'a plus de filtre où on ne prend jamais les choses en décalé, on les prend toujours pour soi, toujours dans la blessure de soi-même, etc. Et donc la question de l'ignorance, ici, je pense qu'aujourd'hui elle serait considérée comme presque une question de classe, c'est-à-dire qu'on dirait de lui que c'est un regard de classe supérieure sur une classe inférieure.
Ah oui.
Je pense, et ça me fait vraiment mal de penser ça, mais j'ai l'impression dans les même dans les échanges, que je peux voir, que je peux regarder ou même que je peux lire de l'Assemblée nationale entre les divers députés, il y a un manque de subtilité terrible. Alors parfois je me demande si c'est exprès ou si c'est vraiment quelque chose de naturel, d'honnête dans cette relation, mais il y a une forme de violence, de brutalité qui fait qu'on ne peut plus faire usage de la langue. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on condamne des gens, des intellectuels, des professeurs pour des mots qu'ils ont dit, parce qu'on n'accepte plus l'équivocité de ce mot, parce qu'on n'accepte plus la métaphore d'un mot aujourd'hui.
Et même peut-être une sémantique qui est différente. Parce qu'en ne prenant juste que le mot ignorance, aujourd'hui ça serait vu très péjorativement, effectivement, comme tu dis, comme une lutte des classes envers des personnes qu'on pourrait qualifier de petites gens.
Oui.
Alors qu'à l'époque, l'ignorance aurait été plutôt perçue comme quelqu'un qui n'a pas encore eu l'accès au savoir.
Et même, je pense que même ce terme qu'il emploie est encore plus fort, parce que je crois que ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que quand il parle d'ignorance, ce terme d'ignorance est finalement très systémique, puisqu'il désigne aussi l'ignorance de ses propres pairs de l'Assemblée nationale qui ferment les yeux sur cette question-là. Mmh. Donc quelque part, l'ignorance, ici, elle n'a pas de classe, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de nom. Elle concerne absolument tout le monde, que ce soit quelqu'un de miséreux dans la rue, que quelqu'un qui est assis dans cette Assemblée nationale. Et je crains qu'aujourd'hui, un discours qui résonne comme étant d'une vérité incisive, eh bien, aurait pu être renversé de façon presque idéologique comme quelque chose d'une attaque de classe, parce qu'on n'entend pas que l'ignorance, elle vient aussi frapper ceux qui font partie de cette assemblée.
Est-ce que l'ignorance voudrait aussi dire que c'est le manque d'intérêt des personnes, que ce soit les députés, par exemple, qui sont en face de Victor Hugo, sur un sujet sensible ?
Oui, bien sûr, absolument. Leur manque d'ignorance, dans le sens où leur manque de clairvoyance, de perception, d'anticipation, et même d'humanité, quelque part. Parce que quand on est à la tête d'un État, on veut bien sûr être dans une logique de gestion, bien évidemment. C'est aussi un tort, quelque part, parce que gérer des humains, c'est quand même peu adapté, quelque part.
On serait plutôt gérer le système et s'occuper des humains.
C'est, voilà, gérer du système et avoir un égard aux humains et un égard notamment à leur intellect, à leur subjectivité, à leur enrichissement intérieur.
L'extrait du discours, à la page 28, m'a fait penser au discours d'un philosophe allemand et de son traité qui est très souvent étudié en philosophie et au lycée. Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant ? Quand Victor Hugo dit qu'il faut allumer des flambeaux pour les esprits, est-ce qu'il pourrait s'inscrire ici dans la même pensée que le philosophe allemand ?
Oui, absolument. Moi, je suis tout à fait de cet avis, puisque ce petit bout de phrase « allumer des flambeaux pour les esprits » m'a tout de suite fait évoquer cette tournure latine d'Emmanuel Kant, donc « sapere aude », qui, en quelque sorte, désigne le fait de se connaître soi-même à travers la culture, à travers tout simplement l'exploration, quelque part. Le fait de cultiver son jardin, pour reprendre la formule de Voltaire. Et d'ailleurs, je formule quelque part que Victor Hugo réutilise dans son discours, puisqu'il dit que l'agriculture et la culture
sont
les mêmes choses. C'est extraordinaire. Ça vient tellement nous parler au cœur de nous-mêmes que ça en est émouvant, vraiment.
Est-ce qu'avec tout ça, pour faire des références donc à Candide, de Voltaire, à cette métaphore de cultiver son jardin, peut-on le faire soi-même toute sa vie, ou est-ce qu'on a aussi besoin des autres ?
Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que nous ne sommes pas des électrons libres et que le rapport à l'autre est fondamental. Aujourd'hui, on veut un petit peu nous mettre dans l'idée que nous sommes des petites bulles autonomes et que nous rentrons en interaction avec les autres, mais que finalement, il faut s'aimer soi-même, il faut être dans une autonomie parfaite. Mais je pense que c'est un fourvoiement et que ça ne peut que conduire à une forme d'égoïsme, évidemment, de narcissisme aussi, mais de profond désarroi. Parce que nous vivons aussi dans le lien à l'autre, dans l'amour à l'autre. Nous sommes toujours aliénés aux autres, mais pas de façon péjorative. Parce qu'on est aussi clairvoyant, on n'est pas dans une aliénation totale, mais on a besoin de ce lien à l'autre. En revanche, je pense que, on reviendra du coup sur la question du désir, je pense que notre désir aussi a beaucoup, joue une énorme part dans le fait de pouvoir aussi soi-même se cultiver, soi-même avancer dans la vie. Donc il y a ce rapport à l'autre, mais il y a aussi à un moment une sorte de responsabilité de tout un chacun à vouloir faire quelque chose de cette existence, ce cadeau qui nous a été donné, et à vouloir aller plus loin.
Donc il y a un déclic pour pouvoir après vivre d'autres choses.
Oui, un déclic, oui. Qui n'est pas toujours perçu comme le déclic conscientisé, mais qui peut parfois prendre du temps, prendre des années, se faire au cours de diverses rencontres que l'on fait et qui, de fil en aiguille, viennent faire fleurir quelque chose qui ensuite sert un peu de mât, sert un peu de corde de vie à laquelle on va se rattacher et grâce à laquelle on va ascensionner quelque part, gravir cette montagne.
Victor Hugo nous explique, on en revient donc au sujet du matérialisme, que ce même matérialisme tue l'esprit, qu'il l'empoisonne et le coupe des choses plus essentielles, que ce soit la réflexion, les matières de l'esprit, ou même, tu as pu le dire tout à l'heure en le citant, que ce soit même la religion. La tendance matérielle aveugle la raison et la morale, si je m'inscris dans les pas de Victor Hugo. Alors qu'est-ce qu'on fait, des gens qui, comme moi, achètent beaucoup de livres ?
Non, ça c'est une mégarde. C'est... je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, lui-même était un très très grand lecteur. Donc il ne faut pas confondre la question de matérialité et de support, quelque
Alors,
part.
Est-ce qu'on peut peut-être traduire le matérialisme aujourd'hui par une forme de confort ?
Oui, exactement.
Technologique ?
Exactement, absolument. Une sorte, voilà, je pense que là tu as mis le terme le plus adéquat possible. Et c'est en ça que c'est important aussi de revenir sur ces passages-là pour montrer à quel point son discours est universaliste et son discours est humaniste. Parce que le terme de matérialité, de matérialisme, voilà, il faut vraiment comprendre que c'est pas l'objet en tant que tel. C'est cet objet associé à ce confort, associé à cette forme de cristallisation.
Une forme de paresse.
Et de paresse complète. Mais pas seulement de paresse dans les gestes du quotidien routinier, mais de paresse vis-à-vis de soi-même, de paresse vis-à-vis des autres, de paresse vis-à-vis de son engagement, de ses responsabilités, etc.
Voilà. Victor Hugo cherche à donner l'éducation et l'accès à la culture à tous.
Oui.
Pour faire briller les hommes et les femmes, pour rendre fiers à la fois nos proches et même donc la nation, comme on a pu le voir précédemment. Finalement, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, est-ce qu'au lieu de jalouser les personnes de la culture qui réussissent, peut-être faudrait-il s'en inspirer
oui.
et les prendre comme des modèles à suivre pour être et s'élever à son tour ?
Mais bien sûr. Et justement, ça revient sur le point que j'évoquais tout à l'heure, dans cette forme de mépris. Aujourd'hui, il y a toujours l'impression que lorsqu'on parle de quelqu'un, on est dans le mépris. Quand on s'appuie, par exemple, lorsque dans une discussion, moi ça m'est arrivé, avec des gens de mon âge ou même avec des gens plus mûrs, plus âgés, de pouvoir, dans une discussion, par exemple, plus politique ou plus philosophique, enfin voilà, plus complexe, de pouvoir m'appuyer sur certains ouvrages que j'avais lus et d'en faire référence. Ça m'est arrivé d'avoir la réflexion, une réflexion très péjorative de la part de la personne en face de moi qui prenait cette référence comme une forme de mépris pour la personne qui était en face de moi et qui me disait « Tu fais référence à tes livres, qu'est-ce que tu sous-entends que je n'ai pas lu ?» Et je suis tombée de 5 étages parce que c'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec ça, c'est une humilité aussi, comprendre que nous sommes des petits êtres avec une âme, avec un corps, mais qu'avant nous, ces hommes, ces philosophes, ces penseurs, ces politiques, ces artistes, ces écrivains sont allés chercher des choses tellement plus profondes, tellement plus complexes au cours de leur existence, et que nous on reprend, parce qu'elles nous parlent, parce qu'elles viennent nous toucher, mais qu'on reprend quand même à partir des créateurs. Et donc c'est une forme d'humilité extrême de pouvoir en faire référence et d'approcher ce qu'ils ont écrit. Et donc, pour revenir sur ta question, l'offense, c'est-à-dire que l'offense de ce qu'on appellerait l'intellect, l'intelligence, la culture, c'est encore une fois un énorme fourvoiement, quelque part, parce que, bien sûr qu'on devrait s'inspirer de ça. Et sans chercher forcément à s'inspirer, il faut chercher à tracer son propre chemin. Disons que ça n'amène à rien d'être de jalouser, d'être dans la rivalité. Et c'est toujours une relation de miroir et de brutalité unilatérale. Ça n'amène à rien, ça n'avance à rien, si ce n'est qu'à se maintenir dans un confort et dans une haine qui est infertile au total et qui est dangereuse aussi.
Et qui nous mène peut-être aussi à l'ignorance, du coup, finalement.
Et qui nous,
dans le sens de Victor Hugo, bien sûr.
Et qui nous maintient dans l'ignorance de et dans ce confort, voilà, ce confort, cette ignorance, parfaitement.
Amis auditeurs, auditrices, nous allons marquer une courte pause, vous laissant quelques instants avec une œuvre de Schubert, et nous revenons tout de suite après.
Thank you.
Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants avec mon ami Jeanne Amiel. Nous venons d'écouter un morceau du Schwanengesang du compositeur Schubert, précisément l'opus numéro 4, Stanchen, titre extrait de l'album éponyme des sœurs Camille et Julie Berthelet, paru en 2016 dans les bacs. Et revenons maintenant à notre livre du jour, le deuxième, qui constitue le programme Penser la culture, qui nous occupe pour ce mois de mars, du péril de l'ignorance. C'est le titre de notre tout petit livre du jour, que vous pouvez bien sûr retrouver aux éditions du Sonneur, paru en novembre 2010 dans les librairies indépendantes. Alors il est quand même bon de vous préciser, amis auditeurs, auditrices, que notre présent livre contient un autre bref discours de Victor Hugo, intitulé « Secours aux artistes », celui-là est prononcé en avril 1849 à la même tribune de l'Assemblée constituante. Ce discours a été prononcé sur le seuil d'un vote futur concernant une fois de plus les attributions de finances au monde de la culture, avec pour rappel aux autres députés que chaque opposition d'attribution de financement marquait, quelque part, la mort de grands artistes. J'aimerais que l'on parle tout de même de la préface à ces deux discours de Victor Hugo, signés par Marie-Noëlle Riault, essayiste française. Cette préface nous reconstitue le contexte politique dans lequel Victor Hugo prononce son discours. Donc il faut savoir que lorsque le poète Alphonse de Lamartine était président, il avait d'abord proposé à Victor Hugo le ministère de l'institution publique, que ce dernier refusa. Mais alors, dans cette préface, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre passage, que je vais vous lire d'ailleurs, et qui fait partie de la préface, que je vais vous lire, on va s'arrêter là. Ce passage est à retrouver aux pages 10 et 11. Plus tard, Hugo écrira « L'assemblée est presque entièrement composée d'hommes, qui ne sachant pas parler, ne savent pas écouter. Ils ne savent pas dire, ils ne veulent pas se taire. Que faire? Ils font du bruit. On sent que cette assemblée est d'hier et qu'elle n'a pas de demain. » Elle vient de naître et elle va mourir. De là, un bizarre amalgame des défauts de l'enfance et des misères de la décrépitude. Elle est puérile et sénile. Jamais de hauteur, jamais de profondeur. Même dans la colère. Pas de tempête, des giboulées. Le débat politique et son assemblée a-t-il évolué depuis 1848 ?
Alors, je ne sais pas si je suis légitime pour me prononcer sur cette question.
Tu es une citoyenne qui vote.
Oui, c'est vrai, je suis une citoyenne qui vote. Mais j'essaie de ne pas tomber dans le lieu commun de toujours pointer du doigt nos représentants. Encore une fois, de tomber dans cette forme de raillerie, dans cette forme de moquerie, dans cette forme de... De désobligeance, mais... Mais je dois dire que, en effet, cette description qu'il en fait, eh bien, est quand même très parlante. Moi, ce que je retiens aussi en lien avec ce passage très important que tu as lu, c'est la note de Marie-Noëlle Riault, merci, qui dit « Notre époque s'y portait à une morale binaire, étroite, à classer les actes et les gens dans des camps retranchés, à des difficultés à comprendre cela. » Elle fait référence à un passage de Victor Hugo précédent. Mais ce qui me parle beaucoup, c'est lorsqu'elle évoque cette morale binaire, étroite, le fait de classer les gens, qui, encore une fois, rejoint ce que je te disais sur la brutalité dans le rapport à l'autre aujourd'hui, cet effet du miroir dans nos liens sociaux, le fait que les mots ne puissent plus être entendus de manière... dépassionnés quelque part, mais qu'ils doivent tout... Enfin, au contraire, peut-être qu'ils sont beaucoup trop pris de façon passionnée, c'est bien ça le souci, et qu'ils ne puissent plus être entendus dans leur forme sémantique, dans leur origine, dans leur ouverture. En fait, un mot n'est pas clos, un mot est une porte qui s'ouvre sur tout un champ des possibles. Et je crois que cette séquestration, cette clôture est très caractéristique de notre époque. Mais ce que dit Victor Hugo sur ces hommes, sur ces représentants qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, eh bien je suis dans l'obligation de dire que oui, c'est tout à fait vrai aujourd'hui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu en penses ?
Ben moi, je trouve que en regardant très régulièrement ce qui se passe à l'Assemblée, il y a quand même beaucoup de brouhaha, beaucoup de personnes qui ne s'écoutent pas. Peu importe d'ailleurs les majorités politiques, hein. Peu importe les groupes, peu importe le côté de l'Assemblée, je trouve qu'il n'y a plus cette volonté, lorsque un représentant politique, un député, prend la parole, de vraiment se taire, d'écouter la personne pendant le temps imparti, je crois que c'est 2 minutes, et de ne rien dire à ce moment-là. Et s'il faut réagir, réagir après, pas pendant, parce que le discours n'est plus audible, la personne est interrompue, et en fait on perd du temps. Les gens ne... Et c'est assez malheureux, je trouve, de voir que, en comparant avec nos pays voisins, que ce soit en Grande-Bretagne ou au Canada ou que sais-je, il y a toujours une forme d'écoute qui me paraît essentielle dans l'Assemblée, surtout dans l'Assemblée. On débat vraiment du cœur d'un système qui est le nôtre. Donc je m'interroge des fois, je me dis, mais c'est quand même malheureux aussi l'image, sans effectivement tomber dans la raillerie, l'image que renvoient ces députés, de se dire, bah, en fait, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais on retient d'eux que quand ils sont dans l'Assemblée, en fait, c'est un vrai poulailler, en fait.
Je crois que nous avons perdu le sens du débat, vraiment très, 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 très sérieusement. Et je crois que ça nous enlève quelque chose de très important dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'autre. Aujourd'hui, il faut toujours qu'il y ait une confrontation. Et c'est ce qu'on voit même, par exemple, moi ça me concerne continuellement, mais dans les débats politiques en vue de certaines élections, les débats qui sont organisés par des chaînes de télévision, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, il faut toujours qu'il y ait une médiatisation de la question politique. Le temps est toujours compté, on ne peut pas laisser quelqu'un finir sa phrase. Il faut que, en fait, ce soit des placements de produits. En fait, le discours se réduit à un placement de produits, à des mots qui doivent faire sens. Plus on fait scandale, plus on sait qu'un mot va susciter du bruit, plus on sait que ça va marcher. C'est un dévoiement et un détournement, en fait, du politique. Et en ce sens, je suis en colère. Je suis profondément en colère parce que nous sommes face, dans notre vie, à des soucis, à des considérations qui nécessitent un temps, qui nécessitent du sérieux. Ce sérieux que pose Victor Hugo au début de son débat. Et ce sérieux-là, on lui rit au nez, on le met sous le tapis, on dit de lui qu'il est réactionnaire, on dit de lui qu'il n'est pas dans le temps, qu'il n'est pas in, qu'il n'est pas technologique. Et du moins, en regardant les autres pays, notamment l'Angleterre, les États-Unis, même l'Italie, j'ai l'impression que cette sobriété du sérieux, on en a encore quelques vestiges en France. Mais quand on regarde les chaînes de télévision, qu'elles soient politiques ou non politiques, des pays voisins, des pays européens ou même tout simplement occidentaux, on se rend compte que tout est tourné au show, tout est tourné au spectacle, tout est tourné à ce marketing. C'est un marketing politique. Et en ce sens, c'est une indignation. En ce sens, c'est une disgrâce terrible. Et je comprends la rage de Victor Hugo lorsqu'il écrit ce discours, parce que quelque part, Il pointe du doigt ces prémices de cette divergence, de cette médiatisation du sujet politique,
Qui se médiatisait, peut-être qu'il le faut pour que nous on puisse être avertis.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment ce côté où
on ne s'écoute plus.
On ne s'écoute plus, mais surtout où toute prise de parole politique, que ce soit par le président, que ce soit par ses ministres, doit être un coup de com. Ça doit faire communication. Il faut placer des mots. Et des mots précis. Il faut faire des actions phares qui vont pouvoir élargir l'électorat. Ça ne tourne qu'autour de ça. Et c'est encore une fois du divertissement, c'est-à-dire le fait de verser ailleurs et de rester dans une ignorance et de tourner le dos à ce dont on aurait besoin de voir en face, quelque part.
Mais c'est ce que fait aussi Victor Hugo quand il prend l'exemple, pour parler d'économie, il prend un exemple complètement bête, comme pour se rabaisser au niveau ou essayer d'interpeller tout le monde.
Oui.
Pour pouvoir communiquer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aussi se dissocier en tant qu'homme ou femme politique demain d'un langage trop peut-être technocrate ou trop compliqué ?
C'est pas une question de la. Bien sûr que c'est un égard pour l'autre que de pouvoir parler de façon accessible, parce qu'on est tous dans un champ, on a tous un champ spécifique, et lorsqu'on parle avec les termes de ce champ spécifique, c'est inaccessible, c'est absolument imperméable à l'autre. Donc évidemment que c'est une considération, un égard pour l'autre, que de faire en sorte qu'on lui parle et que cette parole puisse l'atteindre. Mais ce que fait Victor Hugo, c'est qu'il emploie des métaphores, il emploie des analogies. Ces métaphores et ces analogies ne sont pas un abaissement du discours, parce que ce qui fait la valeur, la force d'un discours, c'est ce qu'il porte, c'est ce qu'il y a de sous-jacent. Et ça, peu importe le langage qu'on utilise, c'est le fond. La forme a son intérêt, j'aime la forme qu'il emploie. D'ailleurs, c'est une forme très naturelle chez lui, donc la forme a un intérêt. Il ne faut pas non plus écraser la forme au profit du fond, parce que la forme fait aussi partie de l'égard qu'on a pour l'autre et qu'on a dans le lien avec l'autre. Mais ici, lorsqu'il emploie ces termes qui semblent du moins plus communs, c'est en vue de faire passer ce message et en vue que ce message puisse être encore plus parlant, quelque part.
On lit d'une traite ce discours, tant il nous paraît encore d'actualité, on a pu en parler là à l'instant, tant aussi par son oralité, sa force... Son oralité qui est même très puissante. Quelle a été ton émotion lorsque tu as fini de lire pour la première fois ce discours ?
Je pense que peut-être que ma réponse à tes questions est un peu l'emportement.
Traduite, mais ça l'a déjà traduit.
Je pense que ça a été une assez bonne, assez fidèle traduction à mon sentiment. Mais en fait, on était ensemble dans une librairie et je me suis baladée donc, dans cette section de Victor Hugo que j'adore. D'ailleurs, j'ai surtout connu Victor Hugo par le biais de ses poèmes, en réalité, et aussi de ses pièces de théâtre. Et là, bien sûr, je savais que c'était un homme politique, mais ma main s'est baladée dans ces rayons de Victor Hugo à trouver cette petite tranche de livre qui m'a intriguée, puis surtout ce titre aussi, oui. Bien sûr, qui a été donné par les éditeurs, hein, parce que c'est un discours, donc il n'a pas vraiment de titre en tant que tel, mais qui m'a tout de suite interpellée. Et je l'ai lu à un moment où je crois que j'allais mal, en réalité, dans le sens où j'étais un peu dans des idées noires sur aujourd'hui, sur... où est-ce qu'on nous mène sur toute cette technologie, sur le fait qu'on se parle plus, sur le fait qu'on parle de la science et qu'on écrase à côté
d'autres disciplines.
Et je citerai justement ce que Victor Hugo dit. Oui. Il dit qu'il faut ôter au corps et donner à l'âme. Et je crois que c'est extraordinaire ce qui est dit ici. Et ça s'applique tellement, tellement intensément à ce que nous vivons aujourd'hui. On donne beaucoup au corps. On veut toujours que le corps soit plus performant, que le corps soit plus parfait, que le corps... Finalement, on le meurtrit, en fait. On le rend mort. On veut le transformer. On veut le perfectionnaliser. On veut qu'il devienne le perfectionné. On veut qu'il devienne technologique. Et on oublie d'alimenter...
Le reste
qui en fait est le moteur du corps, quelque part. Parce qu'un corps sans âme, c'est un corps décérébré, c'est un corps qui ne vit plus, c'est un corps qui meurt, qui tombe. Et donc, quand j'ai lu ce texte, j'ai eu un peu comme une forme de renaissance, un regain de vitalité. Ah oui. Déjà, ça a reconfirmé mon amour inconditionnel pour Victor Hugo, donc c'était déjà extraordinaire. Ça m'a permis de relire beaucoup d'autres de ses poèmes et d'en découvrir un grand nombre encore. Mais aussi, ça m'a rassurée profondément, parce que je me suis dit que, quelque part, cette noirceur que je pouvais avoir, ce regard un peu noir que je pouvais avoir sur mon temps actuel, d'autres l'avaient eu à 2 siècles avant nous, avant moi. Et donc, quelque part, je me suis dit que toute époque a cette déchéance, et que face à cette déchéance, il faut faire résistance. Et face à cette déchéance, il ne faut pas se laisser tomber dans cette spirale cette spirale un petit peu qui nous absorbe, mais au contraire, il faut que ça nous serve de rampe de lancement à vouloir sortir de notre ignorance, car elle nous suivra toute notre vie, et je crois que c'est intéressant d'essayer de par ce désir, continuer ce chemin, continuer cette ascension. Et Victor Hugo m'a permis de confirmer ce désir de marche.
Quand j'ai terminé de lire ce tout petit livre, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un autre sens plus profond au discours et même à ce qu'on a pu évoquer depuis maintenant plus d'une demi-heure. Je me suis demandé si s'inscrire dans une démarche culturelle pour la rendre accessible à tous, à d'autres personnes, peu importe, que ce soit par les institutions publiques, privées ou même les nombreuses associations qui fourmillent autour de la culture, est-ce que tout ça ne relevait pas forcément d'un engagement politique ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Bien sûr, mais moi je pense que la culture doit être défendue au niveau politique. Bien sûr qu'elle doit foisonner de la subjectivité de chacun qui crée son œuvre. et qui, la plupart d'ailleurs, ne savent pas qu'ils créent une œuvre, mais qui sont en train d'engendrer une œuvre. Mais elle doit être portée, jusqu'à la tête de l'État, bien évidemment. Elle doit être promue, elle doit être mise en avant, c'est évident. Mais si je peux juste revenir sur quelque chose très rapidement, souvent on pense que ce qu'on appelle la culture est un accessible restreint. Et d'un accès restreint. On pense que ce qu'on appelle culture, c'est forcément le fait de lire, le fait d'approcher des ouvrages plus anciens, donc des ouvrages parfois plus difficiles du fait de la complexité de l'écriture, de la complexité des sujets qui sont abordés. Mais la culture, il faut l'entendre de façon beaucoup plus humaniste, de beaucoup moins technique. Elle est exigeante, mais c'est une exigence qu'on se donne à soi-même. Si tu veux, ce qu'on peut considérer comme un acte de culture, c'est déjà accepter une altérité, accepter le fait que je ne retrouve pas mon miroir face à l'autre, que l'autre a aussi des différences, que j'ai aussi des différences. Et c'est aussi, la culture, c'est un cheminement, c'est pas seulement un acte, un acte défini. La culture, c'est au contraire quelque chose qui régit et qui infiltre tout domaine, tout recoin de notre vie. Et des écrits, même s'ils sont... des écrits par exemple de Victor Hugo, de Balzac ou autres, souvent je regrette le fait qu'on pense qu'ils ne sont pas accessibles ou qu'on pense qu'ils sont trop complexes d'accès. Mais en réalité, pas du tout. Et ce qu'il y a d'important lorsqu'on lit une œuvre par exemple, ou lorsqu'on regarde une œuvre, ou lorsqu'on écoute une œuvre, c'est non pas d'être dans la dissection de chacun des mots, c'est non pas d'être dans une forme d'exhaustivité de la compréhension, mais c'est de se laisser toucher par certaines choses et au moins d'en retirer certains éléments qui nous touchent et qui viennent nous interroger. Et sur cette petite interrogation qui nous font avancer, qui vont nous faire vouloir, par exemple, découvrir autre chose ou prêter notre oreille à cette petite subtilité-là. Et c'est ça la culture, en fait. C'est pas être un dictionnaire, c'est pas être une encyclopédie, ça c'est pas de la culture. Ou c'est une forme de culture, mais c'est une culture qui est en dormance quelque part, qui est figée.
Et ce que tu veux dire, ça serait de se laisser transporter par une œuvre, peu importe son support, et une fois qu'on s'est complètement abandonné à tout ça, la conscientiser dans un second temps.
Oui, bien sûr, parce que cette conscientisation, elle est importante. Et ça demande un certain temps aussi de se laisser transporter par une œuvre. Parce que moi-même, je peux en faire l'expérience quand, par exemple, en médecine, on ne nous donne pas grand-chose à lire, malheureusement, mais quand j'essaye un petit peu de... par exemple de lire des ouvrages philosophiques ou des choses qui sortent de mon champ bien défini. Parfois aussi, je me retrouve complètement démunie. J'ai l'impression que tellement de cordes me manquent, que je suis en suspens, que je me perds. Je suis dans une forêt et je n'arrive pas à trouver la route. Et ça demande un effort et une sorte de combat un petit peu. Et quand on a décidé de ce combat, en quelques secondes, tout à coup, le chemin se trace et la lumière apparaît. C'est un petit peu... Voilà.
Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ?
Oui, très rapidement, je voudrais juste conclure ce magnifique entretien par une citation de notre Victor Hugo qui dit « Mais si je veux ardemment, passionnément, le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je veux le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je veux multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. »
Ainsi va la littérature et se termine notre seconde chronique de notre programme Penser la culture. Avec mon amie Jeanne, nous vous avons présenté et parlé du discours de Victor Hugo que vous pouvez retrouver aux éditions du Sonneur sous le titre « Du péril de l'ignorance ». Merci Jeanne d'être venue aujourd'hui.
Merci à toi Thomas de m'avoir ouvert la porte et permis de parler de Victor Hugo que j'aime tant.
C'est toujours un grand plaisir de pouvoir te recevoir et j'espère te retrouver très bientôt.
Je l'espère aussi.
Pour un nouveau livre. Quant à nous, amis lecteurs et amis lectrices, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre programme Penser la culture en ouvrant un autre essai. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et le plus important, bien sûr, d'avoir de belles lectures.